Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Austerlitz, 1er décembre 1805. François II, empereur du Saint-Empire et roi des Romains, discute avec le tsar Alexandre Ier et les généraux des forces alliées. Le lendemain, les forces russo-autrichiennes allaient prendre d'assaut les forces françaises situées non loin des hauteurs de Platzen, Kobelnitz et Puntowitz. Malgré l'infériorité de leurs opposants, l'empereur François et le commandant en chef des forces alliées, le général russe Mikhaïl Koutouzov, hésite et souhaite attendre l'arrivée des renforts. Le tsar Alexandre, ainsi que la plupart des officiers présents, dont le chef d'état-major autrichien, le général Franz von Weyrother, sont convaincus de la faiblesse des Français et veulent à tout prix frapper Napoléon alors qu'il est sur le point de s'écrouler. Koutouzov et d'autres officiers sont peu convaincus, mais la pression exercée sur eux par le tsar et les autres officiers les pousse à acquiescer. Alors que François II et le tsar partent se reposer au château d'Austerlitz, les troupes alliées prennent position sur les hauteurs. Cette nuit-là, François II dort peu, comme s'il avait le pressentiment que les choses vont mal se terminer. Napoléon, quant à lui, s'endort vers minuit. Son piège avait fonctionné. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier épisode, le vrai de vrai épisode 1 de Par le fer et le sang. Je suis Benjamin Lacombe et dans cet épisode, il sera question de la naissance du nationalisme allemand au début du 19e siècle, notamment lors des guerres napoléoniennes. La défaite des forces alliées à Austerlitz le 2 décembre 1805 marque la fin de la guerre de la Troisième Coalition et une autre défaite pour les ennemis de Napoléon Bonaparte, empereur des Français depuis 1804. Au lendemain de cette défaite, une bonne partie de l'Allemagne de l'Ouest est occupée par la France et l'Autriche subit des pertes territoriales colossales en vertu du traité de Presbourg du 26 décembre 1805. Cette défaite et ses conséquences signeront l'arrêt de mort du Saint-Empire romain germanique qui sera rapidement remplacé par la Confédération du Rhin, une confédération d'États fantoches servant de tampon entre la France et la Prusse. Cette dernière entrera en guerre contre la France en 1806 et elle subira également son propre Austerlitz en 1807. À partir de la défaite prussienne, l'Allemagne est subjuguée à l'Empire français, mais un tonnerre gronde au sein de la population allemande et plusieurs pensent déjà à un avenir libre de Napoléon, mais aussi à un avenir allemand. Commençons notre périple par un petit retour en arrière pour comprendre d'où vient ce nationalisme allemand. À la fin de l'épisode précédent, j'avais mentionné rapidement qu'il n'y avait pas encore de nation, voire de peuple allemand à la fin du 18e siècle. On pourrait même dire que le peuple allemand, comme le Saint-Empire romain, était morcelé et divisé sur le plan territorial, linguistique et religieux. Premièrement, les Allemands s'identifiaient principalement à leur lieu de résidence. Par exemple, on se considérait en premier comme colonais, hambourgeois, bavarois, etc., avant de se considérer comme allemand. Sur le plan linguistique, les dialectes régionaux comme le bayerisch ou bavarois, le sächsisch ou saxon, le bas allemand, le suabe, ou bien le kölsch, le colonais, ont une place presque aussi importante, voire même plus importante, que la langue allemande elle-même, et la plupart des dialectes mentionnés précédemment sont encore parlés de nos jours. Mais c'est sur le plan religieux que la division est la plus forte. J'ai oublié d'en parler dans le pilote, mais la réforme protestante a eu un impact énorme sur l'histoire allemande. L'Allemagne, à partir du 16e siècle, est divisée en deux. Le nord de l'Allemagne est majoritairement protestant, alors que le sud est catholique. Ainsi, quand les premiers penseurs nationalistes vont apparaître au cours du 18e siècle, ils vont rencontrer d'énormes difficultés dans la définition de ce qu'est la nation allemande. Ils ont pour la plupart des définitions différentes. Par exemple, certains définissaient les Allemands comme une Sprachnation, ou un peuple uni par la même langue, une Kulturnation, un peuple uni par la même culture, ou bien une Erinnerungsgemeinschaft, littéralement une communauté de mémoire, mais on peut mieux le traduire comme un peuple qui partage une histoire commune. Bref, définir la nation allemande était un défi de taille. Malgré ces difficultés, cela n'empêchera pas le développement d'une identité culturelle commune, du moins sur le plan intellectuel, à partir de l'époque des Lumières, et particulièrement des Lumières allemandes. Dans la première moitié du 18e siècle, les intellectuels européens s'inspiraient énormément de leurs collègues français, puisqu'à l'époque, le français était la langue de la haute culture en Europe. La langue française remplace complètement le latin comme langue diplomatique et le français devient la langue des intellectuels. Tout au long du siècle, des variantes nationales des Lumières vont apparaître un peu partout en Europe, dont en Allemagne, où l'époque des Lumières va prendre le nom d'Aufklärung. En Allemagne, l'Aufklärung est incarnée par plusieurs grands intellectuels comme Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Immanuel Kant, ou bien Johann Gottfried Herder. Toutefois, plusieurs intellectuels allemands, notamment au sein du mouvement du Sturm und Drang, tempête et passion, étaient très opposés aux Lumières françaises. En effet, leur opposition était en réaction à l'omniprésence des Français dans la culture, les arts et la philosophie de l'époque. Ils vont promouvoir l'individualité et la subjectivité, ainsi que l'expression violente ou forte des émotions en réponse au rationalisme et l'universalisme des Lumières. Parmi les intellectuels allemands de l'Aufklärung, plusieurs vont tenter de définir ce qu'est le peuple allemand. En allemand, le mot « Volk » signifie « peuple ». Toutefois, à cette époque, le terme désignait les classes inférieures de la société et avait une connotation péjorative, un peu comme l'expression française de « petit peuple ». À partir des années 1770, on assiste à une certaine redéfinition du terme. Pour certains intellectuels, dont Rudolf Zacharias Becker, on croyait que l'éducation des classes inférieures était le moteur le plus efficace pour le progrès politique. Becker, de son côté, croyait que la véritable éducation pratique s'enracine d'abord chez les hommes des basses classes avant de se propager vers les classes supérieures. En suivant cette logique, d'autres intellectuels avancent que la véritable poésie ne peut être trouvée que parmi les classes inférieures, moins atteintes par la haute culture. On commence alors à vouloir préserver la langue et les traditions du peuple et l'on commence à publier des recueils de contes et de chants traditionnels. Un intellectuel en particulier aura un impact important sur la définition du folk, Johann Gottfried Herder. Le folk, pour lui, se définit en grande partie par sa langue. L'édification de la nation, pour lui, se base principalement sur l'habilité d'un peuple à être fier de son soi, ou sein eigenes, et ce soi se trouve au sein du folk, dans ses chants et contes populaires. Ainsi, la langue et la culture allemande deviennent les premiers éléments du nationalisme allemand naissant. Si la Révolution française est mal accueillie par les classes dirigeantes en Europe, elle est toutefois accueillie avec un certain enthousiasme par les intellectuels européens. En Allemagne, Elle est très bien accueillie au départ par la plupart des intellectuels, voyant là le triomphe des idées des Lumières. Les monarques du Saint-Empire sont, bien évidemment, alarmés par la Révolution. Les événements en France vont entraîner une vague de contestation en Allemagne, notamment en Rhénanie et en Saxe, quoique pas au même niveau qu'en France, mais assez pour faire craindre le pire aux monarques allemands. En réaction aux événements en France et aux idées révolutionnaires, un rapprochement entre l'Autriche et la Prusse se produit, culminant la déclaration de Pillnitz d'août 1791, dans laquelle les deux États promettent de défendre les principes monarchiques contre les idées révolutionnaires. Craignant l'alliance austro-prussienne et une potentielle contre-révolution en France et à l'extérieur, la France déclare la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792 et tente d'envahir les Pays-Bas, alors sous le contrôle de l'Autriche. La guerre de la première coalition venait de débuter. Rejoint par la Grande-Bretagne et plusieurs autres États européens, la coalition rencontre des succès initiaux sur les champs de bataille. Sous les ordres du duc de Brunswick, les armées coalisées repoussent les Français hors des Pays-Bas et envahissent la France. Toutefois, les forces coalisées sont vaincues à la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Le vent tourne alors en faveur des Français. Entre 1793 et 1795, les Français repoussent la coalition hors de France, lancent des offensives en Italie et en Allemagne et prennent possession des Pays-Bas. Avec la chute de ceux-ci, la Prusse décide de se retirer du conflit, signant le traité de Bâle le 5 avril 1795. L'Autriche, quant à elle, demeure dans le conflit jusqu'en 1797 et la première coalition s'écroule rapidement, laissant la Grande-Bretagne seule contre la France. L'Autriche, et par extension le Saint-Empire, sera impliquée dans une seconde coalition entre 1798 et 1801. Les Français vont pénétrer plus profondément en Allemagne et dans le nord de l'Italie, où l'Autriche subit des défaites cuisantes aux batailles de Marengo du 14 juin 1800 et de Hohenlinden le 3 décembre 1800. Ces défaites vont pousser l'Autriche à signer le traité de Lunéville le 9 février 1801. En vertu de ce traité, l'Autriche perd possession des Pays-Bas et doit reconnaître la souveraineté de nouveaux États en Italie qui, avant la guerre, lui appartenait. La France acquiert tous les territoires sur la rive gauche du Rhin, lui donnant alors une tête de pont en Allemagne, ce qui lui sera bien utile pour la suite. Le traité de Lunéville va également amener la promulgation de la dernière loi d'importance dans le Saint-Empire romain germanique. En effet, en vertu du traité de Lunéville et de négociations ayant lieu en 1802 entre la Diète impériale et la France, les princes allemands ayant perdu des terres outre-Rhin seraient dédommagés avec des terres en Allemagne, bien évidemment à l'est du Rhin. Pour ce faire, on décide de séculariser les principautés ecclésiastiques au sein du Saint-Empire et de les intégrer à d'autres États allemands. Le même sort est réservé à une vaste majorité des anciennes villes libres d'Empire. Cette résolution, la Reichsdeputationshauptschluss, ou recès de la Diète d'Empire, est adoptée à l'unanimité par la Diète impériale le 24 mars 1803, et l'empereur François la ratifie en avril. Une centaine d'États sont abolis et sont intégrés à la Prusse, la Bavière, le Württemberg, le Pays de Bade et la Saxe. Avec la fin de la guerre de la Seconde Coalition en mars 1802, la paix revient en Europe. Toutefois, il s'agit d'une paix plutôt tendue. Des tensions demeurent entre la Grande-Bretagne et la France, et Napoléon, premier consul depuis 1799, planifie même une invasion de la Grande-Bretagne. Une troisième coalition prend forme à partir de 1804, et l'Autriche rejoint celle-ci en 1805. Napoléon décide alors de se retourner vers l'Allemagne et commence à faire des préparatifs pour envahir celle-ci et s'occuper de la menace russo-autrichienne de plus en plus pressante. Les Autrichiens ne peuvent résister à l'imposante force française. Ils sont vaincus à la bataille de Wertingen le 8 octobre, à Aslar-Jungingen le 11 octobre, à Elchingen le 14 octobre, puis décisivement à Ulm le 19 octobre. Dû à la rapidité de la Grande Armée et le problème de communication et de coordination entre les armées autrichiennes et russes, l'armée russe, sous le commandement du général Kutuzov, ne peut venir en aide aux Autrichiens. Peu de temps après la défaite autrichienne à Ulm, Napoléon prend la capitale autrichienne, Vienne, le 5 novembre 1805. En attendant l'arrivée des forces russes, les Autrichiens vont éviter de confronter Napoléon de nouveau. En début décembre, les forces autrichiennes et russes se rencontrent, mais sont décisivement vaincues à Austerlitz le 2 décembre. Un armistice est signé le 4 entre la France et l'Autriche, et les forces russes se replient vers l'est. Le résultat se fait sentir rapidement. Dans le cadre du traité de Presbourg, l'Autriche subit d'importantes pertes territoriales et la France occupe une bonne partie de l'Allemagne de l'Ouest. De plus, les alliés allemands de Napoléon, c'est-à-dire la Bavière, le Pays de Bade et le Württemberg, reçoivent de nouveaux territoires et d'autres récompenses pour leur soutien à la France. La Bavière et le Württemberg sont élevés au rang de royaume et le Pays de Bade est élevé au rang de grand-duché. Le 12 juillet 1806, Napoléon crée la Confédération du Rhin, une confédération d'États dans l'ouest de l'Allemagne alliés à la France et qui servent principalement d'États tampons entre la France, la Prusse et la Russie. Les nouveaux États membres de la Confédération font alors sécession du Saint-Empire romain germanique. Ainsi, avec la création de la Confédération du Rhin, le Saint-Empire est sur son lit de mort. 10 jours plus tard, le 22 juillet, l'ambassadeur autrichien à Paris reçoit un ultimatum du gouvernement français. Si François II n'abdique pas du trône impérial, la France reprendrait les hostilités avec l'Autriche. Le 6 août, François II, dernier empereur du Saint-Empire romain germanique et dernier roi des Romains, abdique. Nous déclarons, par les présentes, que nous considérons comme dissous les liens qui, jusqu'à présent, nous ont attachés au corps de l'Empire germanique, que nous regardons comme éteinte par la formation de la Confédération du Rhin la charge et la dignité de chef de l'Empire et que nous nous considérons par là comme libérés de tous nos devoirs envers cet Empire. Nous délions en même temps les électeurs, princes et États et tous les membres de l'Empire, nommément aussi les membres des tribunaux suprêmes et autres officiers de l'Empire, de tous les devoirs par lesquels ils étaient liés à nous. Après près de 800 ans d'existence, le Saint-Empire romain germanique n'est plus. Les réactions à sa disparition sont variées, allant de l'indifférence à la célébration. Le lendemain de l'abdication, Goethe écrit dans son journal personnel qu'une dispute entre un cocher et un valet suscite plus de réactions que la disparition de l'Empire. De son côté, François demeure toutefois empereur d'Autriche et plusieurs territoires de l'Empire qui dépendaient de la couronne autrichienne sont rapidement intégrés à l'Autriche. Malgré la disparition de l'Empire, Napoléon veut continuer d'étendre son influence en Allemagne et ses ennemis veulent à tout prix l'en empêcher. En octobre 1806, une quatrième coalition se forme et la Prusse joint celle-ci aux côtés de la Russie et de la Suède. Si la Prusse s'était tenue à l'écart depuis la fin de la première coalition, des tensions existaient entre elle et la France. La création de la Confédération du Rhin fut mal reçue en Prusse, le gouvernement prussien voyant là une ingérence grave de la France dans les affaires allemandes. Le 1er octobre 1806, après avoir envoyé un ultimatum à Napoléon, la Prusse entre en guerre contre la France. Malheureusement pour la Prusse, les choses vont très mal se finir. Les Prussiens et leurs alliés saxons sont vaincus à Saalfeld le 10 octobre. Napoléon réussit à contourner la force principale prussienne et tombe sur ses arrières le 14 octobre. c'est la double bataille d'Iéna-Auerstedt. Cette bataille est un véritable désastre pour la Prusse. Les Prussiens perdent près de la moitié de leurs effectifs et deux commandants, dont le duc de Brunswick, sont tués au combat. La défaite est telle que la Saxe se range du côté de la France. Le 27 octobre, Napoléon et sa grande armée pénètrent dans Berlin. La famille royale prussienne et ce qui reste de l'armée prussienne se replient vers l'est. Napoléon les poursuit et capture le nouveau commandant en chef de l'armée, le prince de Hohenlohe, à Prenzlau, avec les restes de ses troupes. Le général Blücher réussit à fuir avec 10 000 hommes vers l'est. Napoléon poursuit ce qui reste de l'armée prussienne vers la Pologne et la Prusse orientale. Les troupes russes, sous le commandement du général Bennigsen, et les troupes prussiennes sont vaincues à Eylau le 7 et 8 avril 1807, puis à Friedland en juin 1807. La France, la Russie et la Prusse signent les traités de Tilsit en juillet. La Prusse perd près de la moitié de son territoire d'avant-guerre. Les territoires polonais acquis lors de la deuxième et de la troisième partition de la Pologne sont rétrocédés à celle-ci pour former le duché de Varsovie, et l'armée prussienne est réduite et limitée à 42 000 hommes. De plus, la Prusse doit payer près de 120 millions de francs en indemnité de guerre à la France. Le traité de Tilsit est perçu en Prusse comme une humiliation totale. L'Allemagne est désormais soumise aux volontés de Napoléon. Avec tout ce que nous venons de voir, on pourrait se dire que les Allemands ne devaient pas être très contents de se retrouver sous domination étrangère. En fait, les opinions étaient plutôt mitigées. Au sein des États membres de la Confédération du Rhin, Napoléon introduisit un nombre important de réformes politiques et judiciaires. Il mit fin au régime seigneurial ainsi qu'au servage. Il introduit le Code Napoléon et il réforma l'administration des États de la Confédération. De ce fait, la population voyait d'un assez bon œil l'empereur français. Cependant, les Allemands vont rapidement commencer à s'opposer aux Français et le nationalisme intellectuel de la fin du 18e siècle se transforme de plus en plus en un mouvement populaire. Au départ, l'opposition à l'occupation napoléonienne se concentre chez les intellectuels membres des classes aisées et de la bourgeoisie. L'occupation fait grandir le sentiment nationaliste qui se développait chez eux depuis la seconde moitié du 18e siècle, sentiment nationaliste déjà caractérisé par une aversion envers la France. En 1808, Johann Gottfried Fichte présente ses discours à la nation allemande à Berlin. Dans ses discours, Fichte exprime la spécificité des Allemands en lien avec la langue, les traditions et la littérature qui composent l'identité d'une nation et d'un peuple, reprenant ainsi les thèses de Herder. Il exprime tout cela avec un sentiment profondément anti-français qu'il considère non seulement comme des conquérants, mais également comme étant des étrangers à la nation allemande. Tout au long de l'occupation, une sorte de nationalisme libéral voit le jour. Inspiré par les idées de la Révolution française, ce nationalisme libéral, principalement soutenu par la bourgeoisie, souhaitait la formation d'un État-nation allemand basé sur la démocratie, le constitutionnalisme, la représentation et la souveraineté populaire. Ce mouvement était donc très opposé à l'absolutisme qui était la norme à l'époque et que plusieurs nationalistes allemands soutenaient encore. Après sa défaite en 1806, la Prusse entre dans une période de réflexion. En effet, la défaite prussienne face à Napoléon peut être attribuée à une série de mauvaises décisions, une surestimation de la force militaire prussienne et, bien évidemment, à Napoléon lui-même. Elle met également en évidence les structures obsolètes du royaume. Sur le plan économique, des réformes importantes avaient été entamées par Frédéric le Grand, mais les industries étaient peu développées et les guildes détenaient le monopole sur plusieurs d'entre elles. Sur le plan politique et juridique, Frédéric le Grand avait commencé la rédaction d'un code de loi, l'Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, ou le Code de loi générale pour les États prussiens, qui aurait établi l'égalité de tous les sujets devant la loi. Toutefois, Frédéric meurt avant qu'il ne soit complété et il demeure pendant un temps inachevé. Son successeur, Frédéric Guillaume II, restaure un pouvoir beaucoup plus absolutiste que son prédécesseur. Il complète le code de loi de Frédéric, mais celui-ci est beaucoup moins égalitaire, faisant beaucoup plus place aux droits de la noblesse et de l'aristocratie. Avec la Révolution française, l'État prussien semble avoir fait un pas ou deux vers l'arrière. Quand Frédéric Guillaume III monte sur le trône en 1797, c'est cette organisation d'ancien régime qui l'hérite. Toutefois, après la défaite de 1806, le roi se rend compte que si l'État et la société prussienne allaient survivre, il fallait qu'il y ait des réformes. À l'instigation de sa femme, la très aimée reine Louise, et du premier ministre Karl August von Hardenberg, Frédéric Guillaume III rappelle le baron Heinrich Friedrich Karl von Stein à Berlin. C'est le début de la période des réformes prussiennes. Le but principal des réformes prussiennes était de donner les outils nécessaires à la Prusse pour se libérer de l'occupation napoléonienne. Les réformes prussiennes couvrent un large éventail de domaines. On assiste à une réorganisation de l'État et de l'administration, notamment avec la création du Staatsministerium, ou ministère d'État, qui est essentiellement une sorte de cabinet ministériel. Le servage est aboli en 1807 et on supprime le monopole des guildes sur les industries prussiennes. Avec l'édit d'émancipation de 1812, les Juifs prussiens ont désormais, du moins en théorie, les mêmes droits que les autres citoyens, ils sont soumis aux mêmes obligations qu'eux. Le système d'éducation est également réformé. On crée un système scolaire divisé en trois catégories. Les Volksschule, école du peuple, ou essentiellement l'école primaire, les Gymnasium, les écoles secondaires, et les universités. De plus, la fréquentation scolaire est désormais obligatoire. On ouvre, en 1810, l'Université de Berlin, qui est aujourd'hui l'Université Humboldt de Berlin. Sur le plan militaire, une série de réformes sont également entamées. Sous la direction des généraux Gerhard von Scharnhorst, August von Gneisenau, Hermann von Boyen, Karl von Grollmann et Karl von Clausewitz, on crée un ministère de la guerre, en gros un ministère de la défense, et un état-major général qui deviendra au fil des années un modèle en Europe et dans le monde. On introduit également un nouveau système de conscription et on ouvre les commissions d'officiers à la bourgeoisie. La noblesse n'a donc plus le monopole de la profession d'officier. Ils abolissent également les punitions corporelles pour remonter le moral des troupes. Entre 1807 et 1813, la Prusse travaille acharnément pour se réformer et potentiellement renverser la tendance face à Napoléon. Ailleurs en Allemagne, la présence française commence à causer des mécontentements. En plus de devoir fournir l'État français en argent et en ressources, il fallait fournir à la Grande Armée des hommes pour aller combattre les ennemis de la France. On ne comprenait pas pourquoi il fallait aller se battre dans des campagnes militaires qui ne semblaient pas être dans nos intérêts. Quelques insurrections éclatent, notamment en Hesse, dans le Tyrol et en Poméranie, mais ces révoltes n'aboutissent à rien. Malgré le mécontentement populaire, les souverains allemands demeurent, de façon volontaire ou non, aux côtés de Napoléon, beaucoup trop puissant pour qu'on puisse s'y opposer. Toutefois, Napoléon sous-estime le ressentiment populaire face à lui, comme l'explique le préfacier des mémoires du roi de Westphalie, Jérôme Bonaparte. Parce que l'Allemagne était sans initiative et sans voix, parce que les princes obéissaient comme des préfets, l'empereur eut le tort de méconnaître ce que le sentiment national, trop peu ménagé, avait amassé de ressentiments secrets dans le cœur des Allemands. Pendant la désastreuse campagne de Russie en 1812, les nouvelles du front causent une montée du ressentiment populaire contre Napoléon, notamment en lien avec les pertes humaines. En effet, 100 000 des 180 000 soldats allemands de la Grande Armée vont périr en Russie. De plus, plusieurs « alliés » entre guillemets de Napoléon tentent de négocier des cessez-le-feu avec les Russes. Par exemple, les troupes prussiennes affectées aux États baltes pendant la campagne vont négocier à plusieurs reprises des trêves avec les Russes, allant ainsi contre les ordres du roi Frédéric-Guillaume III. Lorsque les lambeaux de la Grande Armée traversent la frontière entre la Pologne et la Russie, le commandant des troupes auxiliaires allemandes, le général prussien Johann Yorck von Wartenberg, signe la convention de Tauhagen le 30 décembre 1812, déclarant ainsi un armistice avec la Russie. La Russie, de son côté, pénètre en Prusse et en Pologne, et le 28 février 1813, la Russie et la Prusse signent le traité de Kalisch qui prévoit l'entrée en guerre de la Prusse contre Napoléon. La déclaration de guerre est remise à l'ambassadeur français le 16 mars 1813. C'est le début de ce qui est appelé dans l'historiographie allemande les guerres de la libération. Les Prussiens remportent des victoires en Saxe, capturant notamment la capitale, Dresde, ce qui force le roi de Saxe à fuir et à déclarer la neutralité du royaume. Le 21 avril, Frédéric Guillaume III décrète le Landsturm, c'est-à-dire la conscription de tous les hommes valides âgés de 15 à 60 ans et qui ne sont pas déjà enrôlés dans l'armée. Le but de ça, c'était de libérer l'armée régulière de tâches à l'arrière des lignes de front, comme la protection des convois de ravitaillement ou la protection des forteresses, par exemple. Malgré les pertes encourues pendant la campagne de Russie et une importante vague de désertion, les alliés allemands de Napoléon, c'est-à-dire la Bavière, le Württemberg, le Pays de Bade et la Hesse, demeurent aux côtés de l'empereur français. Napoléon réplique en Saxe. Face à lui, trois armées alliées. L'armée de Pologne, la force russe principale, sous le commandement du général Bennigsen, une armée prussienne sous le commandement du maréchal Gebhard von Blücher, et l'armée du Nord, une armée conjointe entre la Prusse, la Russie et la Suède, sous le commandement de l'ancien maréchal français, qui est devenu roi de Suède, Jean-Baptiste de Bernadotte. En Saxe, les troupes alliées sont vaincues aux batailles de Lützen, le 2 mai 1813, et de Bautzen, les 20 et 21 mai 1813. Un armistice est signé le 4 juin à Pleiswitz avec la médiation de l'Autriche. Les hostilités vont reprendre toutefois le 11 août et l'Autriche se joint à la coalition. Les forces alliées, pour vaincre Napoléon, décident d'adopter une stratégie novatrice. Ils décident de ne pas combattre Napoléon directement. Bon, vous direz probablement que ça semble pas être une si bonne idée que ça. Pourtant, elle va vraiment permettre aux coalisés de renverser la tendance. Ils vont remporter d'importantes victoires contre les maréchaux de Napoléon avant que ce dernier ne puisse réunir ses forces à Dresde, où les coalisés seront battus. Toutefois, ils réussissent à s'extirper et remporte trois autres victoires contre la Grande Armée. Dresde est donc la dernière grande victoire de Napoléon. Au même moment, ailleurs en Allemagne, le pouvoir de Napoléon s'effrite. Un engouement populaire amène la formation de milices populaires, les Freikorps, ou Corps francs, qui combattent aux côtés des forces coalisées. Des poètes nationalistes, comme Ernst Moritz Arndt et Theodor Körner, lui-même membre d'un corps franc, écrivent et publient sans cesse des textes appelant la population à se soulever contre Napoléon et à se battre pour une nouvelle Allemagne. La plupart des corps francs se battent principalement pour la cause nationaliste plutôt que pour un royaume allemand en particulier. Après sa victoire à Dresde, Napoléon tente en vain de confronter les coalisés, mais ceux-ci ne cessent de lui échapper. Il se tourne de nouveau vers les maréchaux de Napoléon et remporte des victoires contre les maréchaux MacDonald et Ney à Katzbach le 26 août et Dennewitz le 6 septembre respectivement. La situation devient de plus en plus précaire pour la Grande Armée. Les attaques de corps francs s'intensifient et la cavalerie coalisée menace constamment les lignes d'approvisionnement. Le 16 octobre, Napoléon concentre ses forces autour de la ville de Leipzig, en Saxe. face à ses 170 000 hommes, une armée coalisée de 300 000 hommes, composée de Prussiens, de Russes et de Suédois, ainsi que d'autres forces allemandes. La bataille des Nations sera un désastre important pour Napoléon. Au cours de la bataille, ses alliés saxons se retournent contre lui et se joignent à la coalition. Bien que ses pertes sont inférieures à celles des coalisés, Napoléon ordonne toutefois la retraite de son armée le 18 octobre, mais lorsque le seul pont sur la rivière Elster est démoli, 15 000 de ses hommes sont pris au piège dans la ville de Leipzig. La Confédération du Rhin s'effondre et les Français se replient outre-Rhin en France. L'Allemagne était enfin libérée du joug napoléonien. Les forces coalisées pénètrent en France début 1814. Quelques mois plus tard, le 6 avril, Napoléon abdique et il est exilé sur l'île d'Elbe, sur la côte italienne. Bien que celui-ci tentât de reprendre le pouvoir en 1815, il est vaincu à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815, mettant définitivement fin aux guerres napoléoniennes. Mais alors que tout cela se passe, on décide déjà de l'avenir de l'Europe et particulièrement de l'Allemagne. Au cours du congrès de Vienne, on modifie les frontières du défunt Saint-Empire romain germanique et on établit son successeur, la Confédération allemande. Toutefois, il reste maintenant à savoir quel caractère cette confédération va prendre. Sera-t-elle un État-nation ou sera-ce tout simplement un Saint-Empire romain germanique avec beaucoup moins d'États en son sein et toujours divisé entre Nord et Sud, entre Prusse et Autriche. Toutefois, la chose est une autre histoire, une histoire que nous verrons dans le prochain épisode de Par le fer et le sang. Je suis Benjamin Lacombe et je vous dis à la prochaine!